Méga combi.
Un cocktail Molotov se fabrique de la façon suivante. Tu prends une bouteille en verre que tu remplis avec un liquide inflammable. Par exemple, de l'essence volée dans un réservoir de voiture. Il est indispensable d'y rajouter un peu de savon ou de l'huile pour rendre le liquide un peu plus gras. On peut également y rajouter quelques clous, quelques graviers pour rendre l'impact plus fort. Ensuite, on mélange le tout. Puis on prend un bout de chiffon que l'on trempe dans de l'essence et que l'on va fixer sur la bouteille avec un bouchon de liège. On met le feu au chiffon et puis on lance la bouteille vers la cible choisie. Quand la bouteille rencontrera la surface dure, elle explosera.
Tu vois, méga combi, c'est un truc qui te prend, ça va exploser, c'est de la radio.
Méga combi. Un micro, des ciseaux et ciseaux, un stylo, de la radio. 102.2.
Ouvrez en grand vos oreilles.
Le radiozine du mercredi à 18h sur Canu.
Méga combi. À partir du moment où j'ai ça, le vu-mètre, ça devrait passer.
Eh, hey, c'est la 10e saison de Méga combi.
Méga combi, rediffusion.
Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ?
Bah oui, j'espère. En fait, j'ai commandé 1000 lance-roquettes sur votre site internet.
Ah oui, c'était le pack spécial pendant les soldes, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours pas été livré, là.
Ah ? Bon, c'est curieux, ça. C'était à quel nom, la commande ?
Boko Haram.
Haram. Ah oui, comme Sophia Haram.
Non, il y a un H.
Ah, il y a un H. Alors...
Ouais.
Ah oui, Haram avec un H... Bon, écoutez, c'est étrange, hein. Je ne retrouve pas votre fiche client, là. Excusez-moi, monsieur. Armurerie 21, la boutique du Quai d'Orsay, bonjour. Ah oui, c'est toi, Dédé, ça va? Bon, tu tombes bien, là. J'ai le client avec moi au magasin. Tu es où? Mais comment ça, bloqué au port de la Gosse? Bon, c'est chez Bolloré, pourtant, en sport. On a l'habitude de s'arranger avec lui. Quoi? Le douanier qui bloque? Bon, attends une seconde, s'il te plaît. Monsieur, si vous n'êtes pas capable de graisser la patte de vos douaniers, nous, on n'est pas responsables. C'est dans les conditions générales de vente, ça.
Ah ouais, mais moi, j'ai des gars sur le terrain qui attendent du matos, là. Ils doivent être à N'Djamena dans 7 jours.
Bon, un instant, s'il vous plaît. Dédé, tu m'entends? Non, c'est assez urgent, en fait, la livraison, là. Non, avance le bac chiche pour les douaniers vers eux, on te fera une note de frais. Ça marche? Moi aussi, Dédé. Allez, salut. Voilà, monsieur, ça devrait s'arranger.
Merci beaucoup, madame. À la Wakbar.
À la Wakbar aussi.
Bonjour.
Mademoiselle, bonjour. Est-ce que je peux vous renseigner ?
Oui. En fait, je voulais avoir des infos sur votre service de location.
Ah, vous voulez parler de Rent-A-Char ?
Je sais pas trop.
Bon, il s'agit d'un leasing, en fait. Hein. On vous loue un char Leclerc et l'entretien est inclus dans notre réseau d'ambassade.
Non. En fait, moi, c'était plutôt pour un one-shot, vous voyez ?
Ah, de l'événementiel, c'est ça ?
Oui.
Alors, nous avons un pack porte-avions qui marche très fort pour les mariages. Bon, tout est compris, hein. Vin d'honneur sur le tarmac, repas aux messes des officiers, bal bombardement et lune de miel en rafale. C'est vraiment une super prestation.
Alors moi, à ce moment-là, je serais plutôt intéressée par un enterrement de vie de jeune fille, si vous avez.
Ah, bah fallait le dire tout de suite. Non, ça, c'est du sous-marin qu'il vous faut, hein. C'est vraiment un super produit. Alors, ce sera un moment inoubliable pour votre ami. 3 mois en mission sous-marine dans la rade de Brest, avec un matelot chargé de l'animation de vos journées. Déguisement ridicule, alcool à gogo et clubbing en salle des machines.
Ah oui, ça c'est bien, ça fait envie, vraiment.
Bon, par contre, attention, hein, c'est limité à 10 places et ça coûte 20 000 euros par personne. All included.
Oh d'accord. Bah je vais voir ce que je peux faire en faisant une cagnotte et je reviendrai passer commande.
Okay.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt. On sait à qui ? Oui, monsieur.
Bonjour. Je cherche matériel pour faire petite fête.
Oui, vous aussi, c'est un enterrement de vie de garçon, c'est ça ?
Non, moi déjà marié, non, c'est pour anniversaire 20 ans, siège Sarajevo, 20 ans.
Ah oui, d'accord, je vois, c'est une reconstitution.
Reconstitution, grande soirée hommage Slobodan, avec costume, vodka, sniper, concert Kusturica.
Mais génial, mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Du missile sol-sol ?
Oh non, trop cher, moi tout petit budget, moi seulement fusil d'assaut.
Ah oui, mais nous on a que du FAMAS ici, hein, et bon, bah, c'est Made in France, hein. Ça coûte une blinde, vous comprenez ?
Da, je comprends. Vous n'avez pas occasion ?
Du second hand ? Bon, attendez. Je regarde les stocks. Ah, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Ouais. Une centaine de Kalachnikov, c'est un lot saisi dans le Sahel.
Très bien.
Bon, on les avait prêtés pour le tournage de Timbuktu, donc je ne peux pas vous garantir la qualité, mais c'est des Kalach César. $100 pièce.
Oui.
Ça vous dirait ?
Oui, c'est parfait, madame. Je prends tout.
Ok. Bon, par contre, allez-y mollo, hein, quand même. Ça défouraille pas mal, ces engins. Jusqu'à 19h,
Méga Combi.
Prime time.
Prime time.
Sur Canu.
Chavoro pisto chichichaye shuji baira la
Mega Combi, you shot me down, bang bang.
Mega Combi, rediffusion.
Il y a beaucoup de mes amis ou de mes connaissances qui veulent pas s'y confronter, tu vois. Et je le respecte, hein. J'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Je fais pas du prosélytisme tout ça. Non mais c'était limite, j'étais un facho, dernier facho de... Enfin tu vois, le nazi quoi, enfin... Moi j'ai une copine qui me disait, mais t'as un gamin, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'étais fou. Un jugement très très violent. Voilà, ça y est quoi, il va s'acheter un berger allemand et faire des rondes dans le quartier, tu vois. C'était un peu ça quoi. Je comprenais complètement ses a priori parce que c'était aussi pour ça que j'y allais. Pour me confronter aux a priori et aller derrière. J'ai 40 ans, voilà. J'ai un enfant, je vis en couple. Je suis possesseur d'armes et je fais du tir depuis 3 ans.
Eh oui, il y a des gens qui ont des armes chez eux. C'est pas forcément que des chasseurs, des flics, des bandits ou des terroristes. Ça peut être aussi des gens comme toi, comme moi. C'est peut-être ton voisin, ton collègue de travail, le mec avec qui tu bois le café du matin au bistrot du coin ou avec qui tu prends l'apéro chez ton cousin. C'est même peut-être un pote à toi. Il y a plus de 2 millions de personnes en France qui possèdent des armes. Et parmi elles, il y a Nico, 40 ans, un mec qui réfléchit, qui se pose pas mal de questions. Nico bosse dans la com, c'est pas un mec pauvre, c'est pas un mec riche, c'est pas un mec qui regarde Jean-Pierre Pernaut béatement, c'est pas non plus un mec prêt à tuer. Et Bibob a été chez lui, à Villeurbanne.
Méga Combi, rencontre.
Moi, mon accès aux armes, ça s'est fait par la poudre noire. Et ça, c'est des armes qu'on peut acquérir sur Internet avec une carte d'identité. 18 ans, on a ça. On estime que c'est tellement difficile à charger que... Et puis jamais personne n'a fait un braquage avec des armes à la poudre noire parce que c'est... Il va falloir 2 minutes pour charger 6 balles. Ça commence par là. Là, je suis allé, par exemple, au stand de tir. J'étais avec une arme à poudre noire. Je me suis inscrit à mon stand de tir. Le club dans lequel tu t'inscris fait la demande auprès de la préfecture pour que tu obtiennes une licence de tir. Et là, il y a un contrôle qui est fait par la préfecture sur ta personne pour savoir si t'as pas des antécédents, si t'es pas signalé par la police, j'en sais rien. Et une fois que ces contrôles sont faits, 3-4 mois après, tu reçois ta licence de tir. Avec la licence simple, comme ça, sans passer d'examen, tout ça, tu peux acheter tous les fusils, donc fusil de chasse, carabine Van de Lerif, carabine 44 Magnum, ce que tu voudras, quoi. 300 Winchester, des trucs pour chasser, hein. Tu peux chasser le sanglier avec si tu veux, quoi. Mais arme d'épaule, on appelle ça arme d'épaule. Donc tu n'as pas accès aux armes de poing. Parce qu'on considère justement qu'une arme de poing, tu la planques facilement sous un truc, et pour ça, tu es obligé d'aller faire 3 séances de tir contrôlées au club de tir. Où tu es contrôlé par quelqu'un qui regarde que tu fais pas n'importe quoi, quoi quand tu tires. Donc là, par exemple, la préfecture ici sait que j'ai telle petite arme, tu vois, donc des pistolets ou des revolvers ou ce que tu veux.
Bah donc là, par exemple, on est chez toi, et donc ouais. Là, chez toi, t'as une arme ou plusieurs armes?
J'ai plusieurs armes, elles sont toutes dans 2 coffres différents, ouais.
T'as 2 coffres, et ça, c'est des choses que tu pourrais me montrer?
Ouais.
Donc je te suis. Hein ?
Je vais prendre mes clés du coup parce que je les emmène avec moi pour qu'elles soient pas à la maison justement. Voilà. Alors. Voilà. Donc là t'as munitions. Tu vois, t'as l'arme elle-même. Arme de poing, démontée et à verrou. Toi, même chez toi, c'est.
Je peux la toucher
bien
juste
sûr.
Pour.
Bien sûr. Et ça, par exemple, c'est l'arme de garde sécession, on va dire.
Bah, c'est vrai que ça me donne l'impression d'avoir les armes de cow-boy que j'avais gamine.
Exactement.
Quand on jouait.
Tu vois, ça se recharge comme ça avec le refouloir. Tu mets ici la balle que tu as préparée, tu mets ici comme ça, et hop, tu appuies, ça l'enfonce ici. Et après, ici, tu mets des amorces. Le chien va venir percuter la cheminée, va percuter l'amorce, qui va faire une étincelle, mettre le feu à la poudre, et avec la pression, la balle sort. C'est un mélange de peur et de fascination. Une fascination de puissance et une peur de la mort, hein, parce que c'est fait pour ça. Par exemple, j'ai découvert à quel point ça peut vriller la tête de beaucoup de gens et de moi-même si je faisais pas gaffe, quoi. Pour peu qu'on soit un peu narcissique ou qu'on soit déçu par la vie, peut complètement faire partir en vrille parce qu'on devient surpuissant. On peut être un super-héros simplement parce qu'on a une gâchette de Kalachnikov dans les mains. Parce que c'est un fusil qui peut tirer 300 balles à la minute. Ça marche dans toutes les situations, ça marche sous l'eau. Ça c'est quelque chose que je voulais savoir, quoi. Je voulais connaître, quand on tire, qu'est-ce que c'est la fascination de cette puissance de feu, justement. Qu'est-ce qu'on ressent, quoi. Effectivement, on a une fascination de puissance quand on tire. Moi, les calibres les plus gros, c'est fusil de chasse, par exemple. C'est quelque chose, je veux dire, avant d'appuyer sur la gâchette, on a peur, quoi. On a vraiment peur du recul, de ce que ça peut faire.
Donc, il y a quand même toujours cette part de peur aussi.
C'est peur, voilà, peur. Oui, c'est ça.
Et c'est ce que tu recherches, finalement.
C'est ça aussi, exactement. La peur, quand tu l'as pas dominée, elle est pas belle. T'en es pas fier, en fait. La peur, ça s'est calmé, j'ai beaucoup moins peur. Maintenant, je reste dans ce milieu-là et je m'intéresse toujours à ça pour le plaisir de tirer, vraiment. Mais c'est un plaisir qui est en dehors de la violence ou de quoi que ce soit. J'ai toujours été interloqué par les guerres. Tu vois, je me suis toujours demandé, mais comment les gens peuvent faire la guerre? Je suis pas du tout violent. Moi, j'ai pas du tout un truc bagarreur, violent. Je suis pas du tout pro-armé ou je sais pas trop quoi. Hein. Je suis pas anti-armé, mais je suis pas pro-armé. Tu vois. Tu sais, chez moi, j'ai un truc qui dit qu'il faut pas posséder d'armes. Écrit en chinois. Donc, je suis complètement paradoxal vis-à-vis de ça. Mais il y a tout un truc avec la concentration, la respiration, tu sais, les tireurs à l'arc le connaissent, ce truc-là, tu vois, c'est une discipline zen de tirer à l'arc. La précision, puis le... Tu vois, faut bien souffler avant. Je fais du tai chi, il y a un truc de... Faut faire le vide, il faut être concentré, il faut être dans le moment présent. Il y a quelque chose qui se rapproche de ça, ouais, effectivement. Les samouraïs, ils étaient bouddhistes et c'était des guerriers, tu vois. Je me considère pas comme guerrier, je me la joue pas, mais l'un n'empêche pas l'autre pour moi. Voilà, la visite continue. Arme d'épaule. Ah, tu tiens le choc.
Ouais, ouais, mais effectivement,
hein, c'est bizarre,
je fais
hein.
Pas la maline.
C'est bizarre. Bah, parce que là, tu te retrouves en face de la réalité, quoi. C'est quelque chose de l'avoir dans les mains. Puis tu vois, c'est étudié pour être le prolongement de ton bras. C'est à la fois... C'est troublant, en fait. C'est, je crois, une arme. Côté un peu troublant, je trouve. C'est pour ça que moi, je suis effrayé quand, tu vois, je vois les infos. Les pays comme en Ukraine, où les mecs, ils passent trop de temps au contact des armes. Ça, au bout d'un moment, ça doit leur vriller le cerveau, tu vois. Donc là, on dévisse. On va pouvoir emmagasiner les munitions. Voilà, hop. Là, il est armé.
Donc là, si on appuie sur la gâchette, ça tire.
Ouais.
Ok.
C'est tout... tout planqué, quoi, sous clé, parce que j'ai un gamin, donc du coup je veux pas que ça soit accessible.
Et du coup ton enfant, il sait du coup que t'as des armes, qu'il y a des armes à la maison?
Ouais, ouais, je lui ai dit, ouais. Je voulais pas que ça soit caché au début, je voulais pas qu'il les touche. Maintenant je lui fais un petit peu toucher parce qu'il grandit, alors du coup je lui fais un petit peu sentir la sensation que ça peut avoir de toucher une arme, quoi. Je veux l'éduquer aussi vis-à-vis de ça. D'ailleurs, tu vois, c'est une arme. Il y a plein de règles pour s'en servir. Ça, c'est fait pour tuer des gens. Maintenant, il n'y a pas à se sentir surpuissant parce que tu la touches ou quoi que ce soit. C'est...
Non, non, ce que tu disais, mais en tout cas, si on veut se sentir surpuissant ou si on veut l'être, on peut quand même. Après, c'est qu'une question, ce que tu disais, d'équilibre.
Avec une voiture aussi, avec une moto aussi. On peut se sentir surpuissant, c'est vrai, ouais. Mm-hmm. Celui qui te dira qu'il est au stand de tir simplement pour tirer, pas pour autre chose, qu'il a absolument aucune fascination ou de... Mais c'est... moi, j'y crois pas un instant. Le rapport aux armes est complexe. C'est un rapport, comme tu dis, de fascination. Une arme, c'est beau. C'est lisse. Ça a une beauté très froide. Tu vois, c'est beau, une arme, quand tu la regardes, quand tu sais la regarder. La Kalachnikov, c'est l'aboutissement de la précision technique, tu vois. Et ça, on peut le condamner, tout ce que tu veux, sur la morale, tout ça, mais il y a quand même un aboutissement de quelque chose de l'humanité, tu vois. On chevauche une arme, quelque part, à un moment donné, quand tu tires. T'as l'impression d'être derrière, tu vois. Tu déclenches, à un moment donné, un truc... De puissance et de révélation technique, tu vois, tout d'un coup, arriver à faire un trou dans une casserole à 200 mètres, c'est... Et en une fraction de seconde, tu transcendes tes possibilités d'être humain, tu vois, dans ce sens-là. Et ça, c'est une possibilité que t'offre l'arme, voilà. Du point de vue moral, c'est quelque part débile, mais ça existe. Les armes, elles sont sur la terre, quoi. C'est pas moi qui ai décidé. Elles sont sur la terre. Tu regardes les infos, t'en vois plein. Donc c'est un sujet très important, les armes. Moi, c'est un sujet que j'ai pas envie de laisser aux autres. Ceux qui ont des armes, ils t'imposent leurs idées, il me semble.
Comme alors, disait Clint Eastwood, il y a celui qui tient le flingue et celui qui creuse.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Méga combi.
Oui, bonjour, madame Combielle.
Oui, oui.
Lieutenant Didulo, pour la radio Canu.
Oui, c'est ça, exactement.
À Lyon, ouais, ça tombe bien, je suis lyonnais. La radio des pentes. Alors, je travaille pour une émission de radio lyonnais, je prépare un sujet sur les armes de la police. Nous avons vu jeudi, en plein centre-ville de Lyon, apparaître un nouveau fusil. Alors, ce n'est pas un fusil pour les CRS. La présence de ce fusil lors des manifestations est confirmée par plusieurs personnes, documents photos fournis depuis mi-avril à Paris également. Des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur le nom et le type de fusil. C'était quoi vos rumeurs ?
Alors, il y avait l'Arwen 37, un lanceur de flashball.
Ouais. Non, c'est pas le cas de toute façon. C'est un lanceur de grenades à répétition qui est en dotation depuis 2010. Et ça tire uniquement des grenades lacrymogènes et des grenades fumigènes. C'est la même chose que le Cougar. Sauf que c'est à répétition. C'est le Cougar, c'est au coup par coup, et là, c'est 6 coups. Il y a des contrats en cours, et puis il y a des modifications, donc on ne donne pas les marques.
Et elle est utilisée exclusivement en manifestation, dans quel cadre en fait ?
Alors le cadre d'emploi, c'est le même que pour le Cougar, donc c'est exactement la même chose. Le Cougar, ça peut aller jusqu'à 150 mètres de mémoire. En fait, les préconisations sont exactement les mêmes que pour le Cougar. En fait, c'est la même chose que le Cougar, sauf que la forme est différente. Mais tout est identique. Donc il n'y a rien de nouveau en fait. Voilà, fumigène et lacrymogène, hein, uniquement. Voilà. Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Oui, rien de nouveau. Rien de nouveau. Lacrymogène, fumigène. Uniquement lacrymo et fumigène. Circuler, il n'y a rien à voir. Non, non, c'est sûr, le fait de balancer dans la gueule des manifestants 6 projectiles au lieu d'un seul, ça fait pas une grande différence. Cette arme dont le monsieur du ministère refuse de me dire la marque, on a fini par retrouver sa trace. Parce que des armes avec le look de la sulfateuse d'Al Capone en version moderne, il n'y en a pas des milliers non plus. Ce lance-grenade, qui a été mis en fonction en France en 2010, serait un Pen Arms 40 mm. Donc non, ça n'est pas du tout comme le Cougar, puisque cette arme peut se transformer, lacrymo, fumigène, mais aussi flashball, et tout ça en mode rafale. Du coup, on s'est quand même demandé pourquoi on n'en avait pas entendu parler avant de cette arme. Si le ministère refuse de nous donner son nom et tente de nous persuader qu'elle n'est pas plus dangereuse que les armes déjà en service, c'est qu'elle doit avoir une petite histoire. Et en effet, en cherchant un peu, on découvre qu'elle symbolise à elle seule la militarisation de la police américaine. Elle est une des stars de la répression des émeutes de Ferguson après la mort de Mike Brown. Les pen arms sont un peu le must de la répression, aux États-Unis donc, mais aussi en Palestine. L'armée israélienne a même tué un manifestant avec, Mustafa Tamimi, en 2011. L'ironie dans tout ça, c'est que pour rassurer la population et donner bonne conscience aux administrations qui l'utilisent, les États-Unis ont trouvé la parade, en introduisant le concept de « less lethal weapons ». Nous voilà donc rassurés pour les prochaines manifs, les CRS sont maintenant équipés d'armes moins létales. Un peu comme nos casseurs finalement. Un œuf rempli de peinture est sûrement moins létal qu'un œuf dur.
Ce qui est médiatiquement et au niveau gouvernemental on essaie de faire exister, c'est de dire il y a des gens qui sont des casseurs, regardez comme ils sont équipés et préparés. Et on parle de gens qui viennent en manifestation avec très rarement des casques de moto, très rarement des bâtons, et sinon simplement une capuche, un foulard, parfois des lunettes de plongée pour se prémunir des gaz lacrymogènes et du sérum physiologique pour essayer de se rincer un petit peu les yeux et la bouche en cas de projection de gaz lacrymogène et des autres peintures. Et en fait tout cet arsenal là, enfin cet arsenal là entre guillemets, si tu réfléchis, c'est vraiment le stade néolithique en fait. Nous on est là comme des hommes de Cro-Magnon avec nos jambes, une capuche et éventuellement un caillou qu'on a ramassé par terre. T'as des types en face nous qui ont des tasers, des flashballs, différents types de grenades, des drones de surveillance qui commencent à être un peu sortis. T'as du relevé d'empreintes génétiques, du relevé d'empreintes digitales systématiquement dès que t'es placé en garde à vue. On est quand même dans un niveau technique assez élevé et nous on est vraiment des on est au niveau primitif quoi. On serait très très loin d'une situation insurrectionnelle armée où t'as des gens qui sortent avec des flingues dans la rue quoi.
Mégacombi remix.
Le rêve d'une réelle guerre idéale où les frères sortiraient des halls direction les halles et on serait bien plus de 50 000 en centre-ville à traiter la police comme une bande rivale et ces trous de balles appelleraient en chiant dans leur peine l'armée afin de gérer cette guerre guerriers urbaines, mais que peuvent des chars et des balles contre autant de rebelles lâchés dans toutes les rues de la capitale. Et ça sentirait le sang et la chair des cochons qu'on aurait écorchés au pied des portes cochères. Et ils compteraient leur mort tout en appelant leur mère, en refusant de mourir pour une paye de fonctionnaire. S'ils pensent contenir la colère qui débarque par containers des métros, bus et RER, laisse-moi rire. Ces sales porcs se croient tous forts, mes frères, un seul martyr peut briser leur empire.
Mégacombi, tous les mercredis à 18h sur Radio Canu.
Mégacombi, Salam El Kobri.
Rediffusion.
Salam El Kobri.
Salam Combi, tout de suite des nouvelles entre deux trêves. Les accords de Moulsk 2 toujours en échec. Sur place, les combats se poursuivent à Popopolovsk, l'enclave roustophone tenue par les rebelles. Les Ukrainiens s'accusent toujours les Rousteux de soutenir les rebelles et d'avoir même fait pénétrer leur armée sur leur territoire.
La communauté internationale adjure les deux peuples à éviter la confrontation. On ne comprend toujours pas bien ce qui les intéresse dans cette région marécageuse, gelée l'hiver, ravagée par les moustiques l'été, infirme un proche d'Angelo Michael.
Plusieurs appareils militaires ont décollé la nuit dernière depuis le Bourget pour parachuter des manuels de cessez-le-feu en plusieurs langues et des packs de bière sur la ligne de front.
Ils ont semé la désolation, un spectacle pitoyable dans la Drôme.
En effet, trois clowns sont en garde à vue depuis hier soir à 10 après un spectacle pathétique, sans queue ni tête et même pas rigolo, qui a sidéré l'assistance et provoqué des dommages psychologiques sur une dizaine d'enfants et un adulte.
Une attaque qui se produit tandis que le programme de désarmement des clowns dans la zone tribale du Wawachtan devrait encore prendre des années, selon un responsable de l'Observatoire international de la clownerie, qui affirme que les clowns ont parfois des complicités dans les milieux néo-ruraux.
Une manifestation rassemblant une centaine d'intermittents a défilé silencieusement cet après-midi dans les rues de Die avec des panneaux « Pas en mon nom ».
Alcool et armes à feu, ça ne fait pas toujours bon ménage.
Et oui, on sort souvent les flingues le samedi soir, surtout lorsque la tequila fait son effet, qu'on a envie de montrer qu'on est content en déchargeant une bonne rafale de calage dans l'air nocturne en criant « Allahu Akbar ». Oui, mais on oublie souvent le problème des balles perdues.
Et oui, et c'est très regrettable, trop de passants blessés par balles, 8 rien que le week-end dernier. Alors pour faire baisser les statistiques, la limitation d'alcool passe à présent à 0,5 g, ce qui représente même pas un petit shot de whisky. Pas de quoi avoir le courage de défier Patrick pour un petit duel au Colt 45 dans la ruelle.
Mode, que porter pour le prochain djihad ?
Alors la tendance printemps, c'est le treillis slim, des modèles effilés mais légèrement bouffants aux hanches, avec des grandes poches pour mettre les grenades, et un casque Sony fixé à la capuche. Effet garanti devant les copains.
Et puis, il nous a quittés.
Et oui, Guillaume Tellier, lanceur d'économes au cirque Pompetto depuis des années. Il s'était fait connaître dans le monde du cirque comme cracheur de pneus, fakir et trapéziste. Guillaume a eu un terrible accident dimanche dernier au cours de son dernier numéro, le mixeur géant. Plusieurs dizaines de spectateurs ont été légèrement éclaboussés. Bon vent à toi Guillaume, on ne t'oubliera pas. Et puis cette dernière minute, un camion de la Brinks dont le GPS est sans doute tombé en panne traverse actuellement les petites rues du quartier. Alors si vous disposez d'un lance-roquette, courez à la fenêtre. Jusqu'à 19h.
Méga combi
sur Canu.
En effet de taille, mais est-ce qu'on peut les résoudre? À base de drive-by, t'es trop jeune mon gars, pose ton gun avant que ne sonne le glas, ou bien ne résonne les pas de celui qui va te mettre au pas. Joue pas les champions, non, joue pas les champions. Y'a pas de surhomme et surtout personne n'a de sérum contre la mort. Alors prends soin des tiens d'abord, et si tu pises, mec, je t'assure, ne t'éloigne pas du bord. C'est respecte les gens, pas leur genre. Qu'ils pèsent ou non, qu'ils viennent ou non du tchikar. Car c'est fini le temps où, mon gars, tu pouvais tout contrôler tout, t'as changé surtout. Pose ton gun, mec, sinon c'est 10 ans plus la mort d'un homme sur la conscience est pesant. Et puis, si t'as les couilles de tirer, va tirer sur des fourgons blindés. Prends de l'oseille au lieu de jouer avec la vie de famille entière, fatigué d'aller fleurir les tombes de nos frères tombés sous des rafales de balles.
On a mis un canard.
Vas-y, mais d'où pose ton gun là? C'est pas le moment de le poser là?
Bah ouais, t'as raison. Moi, de toute façon, à chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai qu'une envie, c'est de me payer un flingue.
Ah, attends, bah si tu veux, je connais un dealer de gun. Ça t'intéresse?
Carrément, c'est qui? C'est où?
C'est juste là. Vas-y, vas-y, on rentre.
Méga combi.
Armurerie La Croix-Rouge, bonjour.
Reportage.
Les États-Unis, c'est 50 États, 50 législations différentes. Vous allez à New York, le port d'armes est interdit, la détention d'armes est très très réglementée. Mais par exemple, vous allez pêcher en Alaska, si vous n'êtes pas armé ou accompagné de quelqu'un qui est armé, vous n'avez pas le droit.
Pourquoi ?
Pour vous protéger des ours, entre autres. Moi, j'ai un client qui pêche au Canada et qui pêche dans le monde entier, qui est vraiment un grand fan de pêche. Il s'est fait charger par un ours. D'ailleurs, il a changé de calibre après. Il avait un 357, il est passé sur plus gros. Parce qu'il a trouvé que c'était gros, un ours. Qui vous charge pour le poisson, ça va vite et c'est très gros.
Monsieur, bonjour.
Moi, je fais partie du club de la SPTT. STPA, je veux dire, je dis SPTT. STPA, qui est à Pérouge. Vous connaissez Pérouge? Moi, j'habite dans là, hein. 120 km pour venir réparer une cartouche. Nous, notre club, il est chauffé. On peut y aller 3-4 fois dans la semaine. Le lundi après-midi, le mercredi après-midi, le samedi toute la journée, le dimanche toute la journée, les jours fériés. Il n'y a jamais de fermeture. On est 190-200. Ah, on a des filles aussi, beaucoup de filles, une trentaine de filles. Avant, il n'y avait pas beaucoup de filles. Mais non, ça vient. Il y a beaucoup de femmes avec leur mari qui viennent. Des filles qui aiment tirer, non, qui font de la compétition même. Vous n'avez jamais fait du tir?
Jamais.
Ah, faut venir dans un club. Vous ne connaissez pas de club? Mais si vous voulez apprendre à faire du tir, c'est bien d'apprendre avec du 4-5. Ça vous permet de vous placer les pieds, respirer... Et en plus, ça fait pas de bruit, il n'y a pas de recul, c'est un super apprentissage. Après, vous pouvez passer au 22, qui est moins violent. Ça vous permet de demander une détention, 6 mois, et vous avancez petit à petit. Je sais pas, l'armurier, ce qu'il en pense, mais...
Ah, mais c'est pas un face, ça.
Si, fabrication face.
Un 609 marqué Gaiman. Oula.
Ah ouais, c'est... Oui. Quelques années.
Ouais.
Vous savez combien d'années il a? Il a 20 ans.
Ça fait 20 ans que vous faites du tir ou ça fait...
Oh, plus même. Plus. Ouais. Et depuis, oui, bon, je fais des concours avec plus tard. Et là, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas réutilisé. C'est pour ça que j'ai trouvé qu'il fuyait. Parce que c'est pour les petits. J'ai un petit gun de 12 ans. Un petit fils. Alors...
Et du coup, vous allez lui apprendre.
Eh bien, je vais lui apprendre à faire du tir. Alors, j'ai ressorti ça d'un vieux placard. J'aime bien prendre soin de mes armes. Ma femme me dit, oh, je comprends pas pourquoi je paye, tes armes passent avant moi.
Moi, il y a de fort nombreuses années maintenant, il y avait un gars qui était moniteur à la Fédération Française de Tir et qui était en même temps, comment on appelle, là, qui s'occupe des gamins, là, éducateur. Et qui était éducateur en institut spécialisé pour vrais gamins caractériels. Dès qu'un gamin est un peu excité, maintenant on dit que c'est un caractériel, mais là c'était des vrais gamins caractériels. Et il s'était mis à leur faire faire du tir. Et c'était une vraie réussite, hein, parce que ces gamins, ça leur apprenait à se concentrer sur quelque chose, à prendre sur eux-mêmes. Et les semaines où ils ne faisaient pas tir, le week-end, les parents trouvaient que les gamins étaient vachement plus durs à vivre. C'est un sport qui vous oblige à prendre sur vous pour, si vous voulez avoir un résultat. Nous, à une époque, donc, on avait mis des scolaires dans les stands municipaux à Lyon. Dès la deuxième séance, les petits caïds, ils s'écrasent. Parce que les petits caïds qui jouent les gros bras, il n'a pas de résultat. Le gamin qui écoute les consignes et qui prend sur lui, il a un résultat. Et là, il n'y a pas de faux semblant. C'est la cible, le résultat. Si vous tirez bien, ça fait un 10. Vous tirez à la cow-boy comme à la télévision, ben ça fait rien du tout. Et donc, le caïd, il passe pour un crétin. Donc, il apprend à prendre sur lui et à se concentrer. Apprendre à pas faire n'importe quoi, respecter des règles. Et c'est... Voilà, quoi. Et notamment, la France est très novatrice là-dessus. La Fédération Française de Tir fait tirer les gamins à partir de l'âge de 9 ans. Et ça va jusqu'au championnat de France. On est le seul pays au monde à organiser les championnats de France pour les tout petits gamins. Donc vous avez des bouts de choux, les armes sont trop grosses pour eux. Mais ces gamins sont pondérés, sont éduqués, ils savent qu'ils ont quelque chose qui représente une responsabilité. Ils ne font pas n'importe quoi. Moi, j'ai exposé 2 fois dans les championnats de France des écoles de tir, mais c'est un régal. Parce que ces gamins, ils viennent regarder les bouquins. Vous faites ça dans une fête de la chasse, les autres, ils bavent le sandwich, la bière, et les bouquins sont à moitié jetés par terre. Là, ils regardent les bouquins, ils sont... Et on peut former n'importe quel gamin. Moi, je connais des écoles de tir qui sont dans des banlieues. Mais les gamins, il n'y a pas de problème. Et je dirais même que les moniteurs n'ont pas de problème avec leur voiture. Alors, les voitures, personne n'y touche. Alors que quand tu dis, ah ouais, mais non, non, nous, bon, pas de problème. Parce que les petits bouts de choux, ça leur apporte quelque chose.
Kiss with guns, kiss with guns, taken over by one billion. They mesmerize skeletons, kiss with guns.
Pour travailler dans un collège actuellement, il y a un prof qui est venu, qui a proposé à ses élèves de 4e de faire venir un armurier pour leur présenter un métier, dit-il, en voie de, enfin, d'avenir. Il y a un élève de 4e qui pose la question à son prof, qui lui dit « Ah, il va nous parler de Kalachnikov ? Ah, monsieur, il va nous montrer des Kalach ? » Donc voilà, ça en dit long. On leur met des jeux vidéo entre les mains, on leur explique rien, on leur dit bah ça c'est bien. La majorité des gamins, ceux qui sont en perte de résultats scolaires avec lesquels je discute, la plupart, leur seul rêve c'est d'intégrer l'armée après, quoi. Voilà, ou d'être GIGN. C'est tout ça en fait qu'on essaie de combattre quand on parle de démilitarisation progressive de la société. Dans le collège où je travaille, c'est un collège privé, et il y a un internat, et les gamins sortent tous les mercredis après-midi, les internes, et il y en a qui vont dans des stands, je sais pas comment ils s'appellent ça, je sais pas si c'est des tirs laser ou avec de la peinture, ou je sais pas quoi, voilà, paintball, ou je sais pas quoi. Et donc ils me racontent, et puis c'est affiché sur le tableau, sorti paintball, machin, voilà, c'est une consommation, c'est tout ça qui fait que ça nourrit, un espèce de truc, etc. Et puis après on se plaint qu'il y a des gamins qui rêvent d'avoir des calaches, où les gamins me parlent de Call of Duty, ils sont émerveillés par Call of Duty, alors que c'est un jeu vidéo qui fait l'apologie du drone, des assassinats ciblés, enfin de voilà, donc il y a tout un, on va culpabiliser les gamins en leur disant oui vous êtes violents, mais quels outils on leur donne, quoi.
C'est assez
cacher, il va nous montrer des calaches.
Elle, c'est Aziza Riahi. Elle est anthropologue et juriste. Spécialiste en technologie de sécurité et pro des drones, elle est aussi membre de l'Observatoire des armements. L'Observatoire des armements est un centre de documentation et de recherche créé à Lyon en 1984 par trois anciens objecteurs de conscience. L'équipe de l'Observatoire travaille à la fois sur les conséquences des essais nucléaires et sur l'industrie de l'armement et de la sécurité. Leur but serait de parvenir à une démilitarisation progressive de la société. En gros, qu'on arrête de partir faire la guerre à droite à gauche et de vendre des armes. Mais bon, comme c'est un but assez difficile à atteindre, ils tentent déjà de rendre le monde de la défense et de la sécurité plus transparent, d'en discuter, d'écrire dessus, notamment à travers leur revue, Damoclès. L'armée reste leur principal champ d'investigation, même si la police n'est pas en reste. L'armée développe, teste, et la police s'adapte. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui s'amusent. Du coup, la police, elle a aussi ses petits soldats, ses petits jouets de plus en plus perfectionnés, et son salon pour faire son marché.
On va régulièrement à Millipol, qui est un salon en fait donc dédié à la sécurité et au maintien de l'ordre. Millipol, militaire et police. C'est dire à quel point maintenant la frontière entre le policier et le sécuritaire est de plus en plus floue, quoi. On va trouver des drones à la fois Eurosatoris, salon de l'armement terrestre, et puis on va en trouver à Millipol, parce que ça va servir à la fois sur les opérations extérieures et puis à la fois au niveau du territoire national pour le maintien de l'ordre, la surveillance, etc. Et en France, il y a des drones qui sont utilisés par les forces de sécurité, enfin les forces de police et de gendarmerie, pour la surveillance des manifestations. Le G8 Evian a été surveillé aussi par des drones. Voilà. Bon, la France, pour l'instant, n'a pas de drones armés. Elle a des drones qui peuvent être armés, qu'elle vient d'acheter aux États-Unis. C'est les Reaper, elle en a acheté une douzaine, donc qu'elle va avoir d'ici 2020, si je ne m'abuse. Et il y en a deux qui ont été livrés, qui sont stationnés au Niger, et un troisième qui vient d'être acté pour le montant de 3,8 millions de dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que le drone, en fait, est apparu au début du siècle. Il est apparu au début du siècle, avec la Première Guerre mondiale, etc. Mais c'était que des prototypes d'essai. Grande-Bretagne, 1930, premier drone, c'était un avion muni d'une caméra, piloté à distance pour pouvoir prendre des photos, etc. Et il y a eu comme ça que des essais jusqu'en 1945 à peu près. Victoire Seconde Guerre mondiale, on découvre qu'en fait, le premier drone armé a été développé par le Troisième Reich. Les États-Unis s'emparent de cette technologie-là et la développent pour ses besoins. Et après, ça a été utilisé pour le contrôle, en fait, pendant la guerre froide, pour tout ce qui est risque nucléaire, la baie des cochons, etc. Après, ça a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, à l'issue de la guerre du Kippour et l'échec cuisant pour Israël. Ils décident, pareil, de fabriquer un prototype avec une caméra pour aller faire des surveillances dans le Sinaï, etc. Premier drone israélien. Israël, aujourd'hui, est le premier exportateur mondial de drones. Et l'Europe bénéficie essentiellement en fait, de la technologie israélienne pour développer ses propres drones. Et pendant ce temps, la France, son premier drone tactique, elle l'a eu en 1993. Parce que pendant les années 60, en fait, elle a misé sur la dissuasion nucléaire. De Gaulle, nous, on mise sur le nucléaire. Dissuasion nucléaire, on veut une force de frappe, etc. Alors les drones tactiques, en fait, c'est des drones de surveillance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas être armés. Donc le principe, c'est de pouvoir récolter les renseignements, localiser les points de tir, etc., pour pouvoir les transmettre en direct aux opérateurs qui sont derrière leur écran, leur indiquer tel ou tel positionnement avec des lasers, des guidages lasers pour les troupes au sol. Et les drones de combat, on va dire, où là, on a des drones donc qui peuvent être armés, comme le Reaper qui vient d'être livré à la France, qui est déployé au Sahel. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que la France allait acheter une douzaine de drones tactiques pour remplacer les vieux Harfons. Donc, il y a toute une bataille d'industriels pour savoir qu'est-ce que la France, à qui va les acheter, quoi. En fait, il y a un accord de coopération militaire qui existe depuis 2010 entre la France et le Royaume-Uni. C'est traité tête-à-tête. Et dans le cadre de cet accord, donc, c'est privilégié un peu coopération militaire, mais aussi commerciale, etc. Et donc, le fait d'acheter les Watchkeepers anglais, pour la France, c'est de dire, Jean-Yves Le Drian l'a dit explicitement, c'est, ok, on achète vos drones Watchkeepers, mais on vous vend nos chars Leclerc. Je te donne mes chars et tu me donnes tes drones, quoi. On pense avoir une supériorité stratégique parce qu'on va utiliser des drones, par exemple les États-Unis pour faire des assassinats ciblés au Pakistan ou au Yémen ou en Somalie, mais la France a perdu une dizaine de drones tactiques envolés. soit un accident technique, soit voilà. Donc ces technologies-là peuvent très bien être récupérées, réparées. Ça pose quand même la question de la prolifération de ces drones. On s'amuse avec une technologie, et c'est ça le problème de ces technologies-là. On la met en vente, on la met en service, et après on légifère. Et c'est tout le temps comme ça avec les armes, et avec toutes les technologies. Et le problème des drones, c'est que ça n'a pas été pris en amont. Et c'est pour ça que maintenant, il y a une coalition de 50 ONG qui actuellement mène une campagne pour interdire ce qu'on appelle les robots tueurs. C'est-à-dire que c'est des drones, mais complètement autonomes. Pour l'instant, ils sont très très développés. Les États-Unis sont à fond là-dedans, Israël aussi pareil. Bon, il y a des prototypes semi-autonomes qui existent déjà, notamment à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Une espèce de barrière comme ça robotique qui permet de détecter les intrusions. Et s'il y a des intrusions, ils peuvent tirer à vue, quoi. Israël aussi, il en a sur un de ses checkpoints. Je crois que c'est la porte de chez, si je ne me trompe pas, c'est la porte principale qui mène à Gaza. Donc, ils utilisent comme ça des, comment dire, des technologies un peu semi-autonomes ou semi, voilà. Ça pose un réel problème au niveau de l'éthique de la guerre et des conséquences qu'il peut y avoir. Quoi. Et donc effectivement, il y a, voilà, il y a toute cette tendance-là qui part dans le virtuel, qui part dans la mise à distance de la guerre, etc., qui est quand même assez effrayante. Quelque part, on déshumanise un peu la guerre, et donc est-ce qu'on ne la suscite pas de plus en plus ? Plus on ira vers des technologies qui seront peut-être de moins en moins maîtrisables et de plus en plus catastrophiques pour tout le monde.
Et si je vous disais que même les quartiers les plus dangereux de notre pays pourraient totalement être sécurisés? Si en plus je vous disais que cela pourrait se faire sans avoir à risquer la vie d'un seul représentant des forces de l'ordre?
Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Veuillez sortir de vos domiciles les mains en l'air. Et il ne vous sera fait aucun mal.
Savoir, c'est que le drone, en fait, est apparu au début du siècle. C'est apparu au début du siècle, avec la Première Guerre mondiale, etc. Mais c'était que des prototypes d'essai. Alors la France a pris un sacré retard, en fait.
Et ouais, les gars, on est grave à la bourre sur les drones. Alors heureusement, la France a encore de la ressource dans l'armement costaud. Nous, notre truc, c'est l'équipement massif. Ouais. Porte-hélicoptère Mistral, chasseur Rafale, missile balistique, Charles Leclerc. Voilà en gros l'armada que notre ministre de la guerre tente de refourguer dans le monde entier lors de ses tournées commerciales. Hier encore, Le Drian était à New Delhi pour convaincre les Indiens d'acheter 126 Rafales à Dassault. À 150 millions d'euros l'unité, l'addition a de quoi faire saliver. Elle a aussi de quoi inquiéter les acheteurs comme l'Égypte, premier client à l'export du Rafale avec 24 exemplaires. Son panier d'achat contient aussi une frégate et quelques missiles pour la bagatelle de 5 milliards d'euros. Hollande et Le Drian, l'œil humide, saluent ce contrat qui viendra rééquilibrer la balance commerciale, préserver des milliers d'emplois et apportera joie et amour dans les foyers. Bombardez-vous les amis, foutez-vous sur la gueule puisque ça fait bosser nos ouvriers. En voilà du réel socialisme. Pourtant, nos turiféraires du complexe militaro-industriel national oublient de préciser que la thune égyptienne est en partie avancée par la France. Grâce à un petit montage financier piloté par Bercy, la France garantit en effet un prêt au Caire pour que Sissi Princesse puisse nous acheter ses joujoux. Mais pourquoi donc, me direz-vous, l'État est-il autant aux petits oignons avec Dassault ? C'est très simple. L'État s'est engagé à acheter un nombre minimum de Rafales à notre avionneur national afin de lui permettre d'amortir ses investissements. Conclusion, pour chaque avion vendu à l'export, l'État français fait des économies sur ses propres achats de matériel. Ou pour le dire autrement, chaque Rafale non vendu à l'étranger sera payé par les Français. Alors, amis indiens et qataris, maniez-vous de signer puisque c'est bon pour le déficit budgétaire. Voilà, on comprend mieux en tout cas le dynamisme et l'entrain du VRP Le Drian. On saisit mieux aussi le peu de cas que la France fait de la moralité de ses clients. La conception de la démocratie du maréchal Sissi est pour le moins déroutante et Hollande est un peu gêné aux entournures de devoir livrer deux vaisseaux militaires à Poutine en plein conflit ukrainien. Mais les affaires sont les affaires et si l'argent n'a pas d'odeur, la gâchette n'a pas de couleur. On se rappelle d'Alio-Marie qui, en réaction au printemps tunisien, avait proposé à Ben Ali de partager avec lui le savoir-faire français en termes de maintien de l'ordre. Pour les armes aussi, nous savons transmettre nos compétences. Tout contrat de vente inclut de la formation parce qu'il ne suffit pas d'acheter des rafales, encore faut-il savoir les piloter. Cette abnégation dans le partage de notre progrès et de nos connaissances, c'est peut-être ça en fait, la French Touch.
Le gouvernement congolais a la volonté de recréer une armée mixte et intégrée.
regroupant des militaires, des anciennes factions qui se sont fait la guerre. Nous sommes ici, nous, Belges, pour donner une formation à des bataillons congolais dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Nous ne sommes pas seuls. Les Français ont fourni un contingent de 11 personnes, dont 10 instructeurs.
En France, nous avons une armée de métiers, comme vous allez devenir bientôt, et on travaille pour la paix. Mais pour travailler pour la paix, il faut s'entraîner. Donc on va vous entraîner à tirer normalement.
Dans chaque métier, on a son outil. Le paysan, pour travailler dans le champ, il a la bêche. Le maçon, pour faire le mur, il a la truelle. Le charpentier, pour enfoncer les clous, il a le marteau. Le soldat, son outil, c'est le fusil.
Il sera soldat pour la vue des alibas armes.
Le fusil, c'est un outil qui sert à tuer.
Manduki est allé alors que mon père salami pour la coboma.
Donc c'est un outil dangereux. Là, il est dangereux.
Tout militaire a une arme. C'est compris? Tout militaire connaît son arme. Ça veut dire qu'on entretient son arme, on dort avec son arme comme si c'était sa femme.
Méga combi, on joue feu.
Tu es président d'une grande puissance et tous tes soldats sont déjà en mission? Tu es chef de gang et tu dois régler des comptes? Tu es leader d'une organisation terroriste et t'as gagné au loto?
Alors loue les services d'une armée privée. Loca-tank.com. Loca-tank.com.
De la location de taser jusqu'à la mise à disposition de divisions blindées et de plusieurs troupes de para, en passant par une surveillance rapprochée ou la surveillance d'un immeuble.
Loca-tank.com a tout ce qu'il vous faut.
Que vous vouliez protéger une propriété ou coloniser un pays.
Loca-tank.com.
T'as des thunes? Profites-en.
Tue des pauvres.
Tue des pauvres.
Loca-tank.com, première boutique en ligne de mercenaires et accessoires.
Méga combi, l'émission la plus...
La plus quoi?
Non bah rien.
Et pendant ce temps-là, Jean-Gab est toujours dans sa chambre à Bordeaux, avec ses doigts de pied.
Tu vas parler, nom de Dieu! Il est où, Carl? Dis-nous où il est!
C'est pas moi, je vous dirai rien.
Ah, il m'a rien lâché. Et vous faites quoi, les gars? Le suspect est là et vous vous préparez un cocktail.
Oui, un cocktail qui le fera parler. C'est le magicien qui nous a donné la recette de sérum de vérité.
Vous inquiétez pas, il va parler. De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau.
Chef, donnez-lui ce verre. Ah, te voilà, Carol.
Salut, les gars. Alors, vous avez trouvé Carl?
On pense que ce gars va nous mener à ton fils.
Mais je l'ai déjà vu, ce type. Sa tête me dit quelque chose.
Tu te sens de lui parler?
Oui. Vous restez avec moi, les gars.
Bien sûr!
Je vous connais, vous. Où est-ce que je vous ai déjà vu?
Oui, vous m'avez croisé au cinéma, dans Prostate, mon amour. Vous étiez avec votre mari, et moi au fond de la salle.
Il marche bien, ce sérum de vérité. Mais vous étiez dans le film aussi. C'est vous le héros principal.
Oui, ce film a été un flop total. Mais pourquoi vous avez fait tout ça? Je suis maudit, comme dirait l'autre. Comme je vous l'ai dit, ce film a été un flop. Je n'ai d'ailleurs jamais réussi à faire toutes mes heures d'intermittence. J'ai réalisé, il y a peu de temps, que je ne pourrais pas avoir d'enfant.
Oh, vous êtes stérile?
Non, je n'arrive pas à trouver une femme qui reste avec moi. Alors je vous ai suivi, Carole, avec votre mari, le couple modèle. Et en une soirée, j'ai provoqué votre accident de voiture. Je suis allé chez vous. Et ensuite, j'ai pris votre enfant.
ça m'a été facile de trouver une mise en scène. Avec votre beau-frère malade de clown.
Où est Carl, espèce de salaud ?
Il va bien. Je ne lui ai fait aucun mal. Vous le trouverez à mon adresse.
Stu, chef, allez chercher Carl avec Carole. Et Stéphanie, vous lui avez fait quoi ?
Je ne savais pas si elle m'avait vu, alors je lui ai administré une forte dose de kétamine, juste avant que vous arriviez. Si vous n'aviez pas été là, je serais heureux avec mon bébé.
Mais vous oubliez une chose, monsieur Duval. Ce n'est pas votre enfant. Maintenant, tout est fini. Il va être en prison, votre prochain tournage.
Stu, on va chercher le petit Carl chez Duval. Police, on entre. Oh là là, mon petit Carl, t'es tout seul. Il est complètement fou, ce Duval.
Mon bébé, oh, mon bébé. Stan, on est enfin réunis.
Ouais, ils sont mignons, ces trois-là.
Vous allez faire quoi, maintenant ?
Vous savez, nous, on trouvera bien. Mais d'abord, on va prendre des vacances.
Peut-être on peut trouver des dates de concert.
En tout cas, on s'arrêtera pas de jouer de la musique.
Merci les doigts de pied. Sans vous, je sais pas comment on aurait résolu cette enquête.
Bah dites merci au magicien, il nous a bien aidés. Et la prochaine fois, appelez-nous plutôt pour prendre des nouvelles et boire un café. Allez, salut. C'est quoi cet hélicoptère ?
Lieutenant du Barbier, enchanté.
Bonjour lieutenant, qu'est-ce qui vous amène ?
On a perdu 3 de nos hommes dans une grande forêt. Ils ont disparu, ça fait 15 jours. Vous avez été chaudement recommandé par mes supérieurs pour les retrouver. Je vous invite à monter avec moi.
Anna, on a dit qu'on partait en vacances. On pourrait y aller, ça nous ferait faire un tour dans la forêt.
Imagine, ces gars, ils ont besoin de nous, faut qu'on y aille.
Y aura-t-il un prochain épisode au doigt de pied de Jean Gab ? Vous le saurez la semaine prochaine à 18h55 sur Radio Canu.
Méga Combi.
Remix.
Qu'est-ce que tu fais, Combi ? Tu lances pas un CD ?
Non, non, c'est pas du tout pour faire de la radio, ce truc.
Mais c'est pas la... Mais c'est quoi toutes ces manettes, là ? Je comprends pas. C'est pas la régie, la console ?
Je me suis acheté un drone.
Ah ouais ?
Ouais, regarde, alors je
démarre. N'importe quoi.
Voilà.
Ah si, c'est vrai ? Là, ça lance un CD.
Ah non, waouh ! Ouais, t'as vu ? Donc voilà, ça va super vite. Donc là, il y a une petite caméra qui est fixée dessus. Et là, regardez, sur le petit écran, on peut voir. Donc voilà, il est en train de s'envoler au-dessus de la place Sassonnet.
Ça donne un peu la gerbe, là.
Ouais. Voilà, et là on est au-dessus de l'hôtel de ville, les terreaux, la fontaine.
Ah, j'ai le vertige, on dirait que
ça va vite, hein.
Ouais,
ça va vite. Et la définition est bonne, hein.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Et on
peut zoomer là, si j'appuie là, on peut zoomer.
Ah,
là,
c'est
sur
ça, j'allais
te
demander la manette, c'est le zoom, ça.
Ouais, là je zoome, voilà, ça marche pas très bien.
Ah, bah c'est pas Gérard Collomb là ?
Ah, si, je pense que c'est.
Vas-y, zoom plus.
Ouais. Ah non,
c'est pas lui.
Ça aurait été drôle.
Donc voilà.
Je peux essayer, tu crois ?
Non, je préfère garder la manette, tu vois.
D'accord.
Là, j'appuie un peu, donc là, on accélère, on passe le Rhône. Voilà, vous voyez le crayon, là.
Ah ouais,
c'est pas mal,
peu,
les lumières.
Et tu peux monter ?
Ouais, bah, on peut monter comme ça, voilà. Bon, il est un peu bruyant, là, mais...
C'est vrai qu'on dirait un peu une tondeuse.
Ouais.
Ah, oui, c'est plus joli, le crayon.
Voilà,
en fait,
le crayon, la tour oxygène, voilà. Et hop, allez, on va au sud.
Allez, bah
ouais. Ouais, allez, il doit faire beau.
Voilà, on peut passer par Fourvière, si vous voulez.
Et la manette, là, ça sert à quoi, ça ? C'est pour...
Je sais pas, j'ai pas essayé.
Attends, mais zoom encore là.
Ouais, vas-y. Bah là, on arrive sur la raffinerie, non ? Ça commence à comme une grosse flamme.
Ouais, c'est chouette. Ouais, t'approches pas
vite
trop.
Vite à la raffinerie, ça va vite, hein.
Voilà, on voit plus rien là.
Mais ça va super vite.
Et je peux essayer quand même. Fais voir la manette là, quand même.
Non.
Fais tourner le drone.
C'est mon jouet. C'est mon jouet. Je vais pas te le prêter là.
Déjà que t'es.
Non, lâche.
T'as toujours la console à la radio. Je vais essayer le drone. Ça va.
C'est bon.
Non. Et puis là, le gros bouton rouge là, c'est quoi ?
Pas.
Mais si j'appuie si je veux.
Non.
Si j'appuie.
Non.
C'est parti.
Méga Combi, c'est fini.
Si t'as pas tout compris...
Je pense que je n'entends pas clairement ce que vous me dites.
Si tu veux écouter cette émission la nuit...
Ça m'occupe toute la nuit et je peux dormir la journée. Comme ça, j'évite les emmerdes.
Si tu veux faire grandir les petits...
Vous vouliez quelque chose ? Faites-le vous-même !
Si tu veux ta dose de Méga Combi avant le prochain mercredi, va sur Internet et tape Méga Combi.
Merci, ça me fait plaisir.
Tu comprends quelque chose, toi ?
La prochaine Méga Combi, c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro, le bédo... Et un dernier petit mot.
Je serais bien resté manger, mais ce sera pour une prochaine fois.
Tu viens de perdre 20 secondes.
À quoi ça sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites ?
Tu vois, je crois que c'est fini.
Il y a tout de même des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées. De belles choses.
L'amour ?
Oui, oui, l'amour, oui, c'est ça, c'est un très bon exemple. Oui, l'amour mérite d'être sauvé.
Oh, no!
ce moment.
Donne-moi la main. Donne-moi la main.
C'est fini. Mercredi prochain.